Ja, hier für die Menschen.
On ne va pas laisser passer le quart d'heure méditerranéen. On a déjà 10 minutes de retard par rapport à l'horaire habituel. Bien qu'on ne soit pas très très nombreux, on va démarrer quand même la soirée. On peut penser qu'il y en a qui sont partis en vacances. C'est dommage pour nous. Si il y en a qui arriveront comme d'habitude en retard, on ne va pas se s'inquiéter. Avant de vous présenter la conférencière de ce soir, Dominique Cornus-Dragne, je voudrais vous signaler qu'à l'entrée, pour ceux qui le désirent, on est en consigne en vente des petits gobelets décorés tout en vol. Dans notre souci de préserver l'environnement, désormais il n'y aura plus de gobelets en plastique sur la table de l'auberge espagnole. Donc les petits gobelets en question, vous pouvez les garder si vous déposez 1 € dans la cagnotte. Voilà. Assurez-vous, je n'ai pas tout ça à lire. C'est juste pour me servir de soutien pour mon papier. Dominique, que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter, dont j'ai fait la connaissance il y a quelques années, m'a toujours absolument abasourdi chaque fois qu'elle intervient sur le sujet qui nous retient ce soir. Mais avant de parler du sujet, parlons d'elle. Dominique est une Toulousaine, j'oserais dire pure sucre, puisque son papa était confiseur. On vit en famille, de père en fille, à Saint-Sernin, place Saint-Sernin à Toulouse. Et le grand-père, par contre, n'était pas confiseur. Lui, il a créé la verrière ouvrière de la ville, et c'est tout à fait autre chose. On n'a pas l'habitude de donner la date de naissance des dames, donc je ne le ferai pas. Je vous dirai simplement que c'était son anniversaire il y a juste un petit peu plus de 3 semaines. De tout temps, Christelle, elle voulait devenir médecin. Chose dite, chose faite. Après le lycée de Saint-Sernin, elle effectue ses études de médecine à Toulouse, de 70 à 84, en même temps qu'elle passe 2 années au Rocky Mountain Poison Center de Denver, dans le Colorado, pour obtenir un diplôme de médecin toxicologue. La voici revenue en France, médecin anesthésiste réanimateur, au passage homéopathe. Et elle exerce depuis toujours à Toulouse. Je vous ai dit, c'est une Toulousaine pure sucre. Pour la rencontrer dans son activité, le mieux, c'est de se rendre au Médipôle à Toulouse, près d'Oncopôle. C'est là que j'ai réussi à la coincer pour un rendez-vous. Pardon, Emmanuel. C'était un rendez-vous de travail. Mariée avec Emmanuel Ornus, qui est ici, lui, chirurgien, maman d'un garçon, prénommé Pierre, Dominique est une passionnée dont les goûts et les loisirs expriment bien ses passions. La cuisine et surtout la gastronomie. Mais aussi le sport, c'est pour la ligne. Le jazz, mais aussi les romans. Mais en même temps, l'histoire et les sciences humaines. Les voitures, tant qu'il est sportive, elle adore couler au cabriolet. Et enfin, les voyages. Mais la grande passion de Dominique, depuis l'âge de 10 ans, c'est l'escrime. En effet, elle a découvert l'escrime à 10 ans, elle n'a cessé de pratiquer dans son club USR de Ramonville, où elle pratique encore. Attention, il faut se méfier, quand on attaque, elle sait ce qu'il faut faire. C'est cette passion qui va la conduire à consacrer une part de son temps à la médecine sportive, et elle y a atteint un haut niveau, comme on dit chez les sportifs. Elle est en effet médecin fédéral régional de la Ligue d'escrime de Midi-Pyrénées, médecin fédéral de la discipline escrime de la Fédération française du handisport et médecin fédéral national adjointe de la Fédération française d'escrime. Quand on parle d'escrime avec Dominique, ça rigole pas. Mais surtout, demeurant d'abord médecin pratiquante, Dominique a l'habitude de revoir ses patientes pour les aider à mieux supporter la chirurgie. C'est ainsi qu'elle a pensé que le sport pouvait leur apporter quelque chose. C'est fraîchement imprimé, ça a collé. Les chiens ne faisant pas des chats, Cette combattante a donc imaginé solution riposte. En escrime, on dit, quand on est attaqué, il y a toujours une solution et ensuite on riposte. L'appel à l'escrime, solution riposte, c'est l'appel à l'escrime pour aider les femmes atteintes de cancer du sein et subissant une opération à combattre physiquement, mais aussi psychologiquement cette épreuve. L'aventure a commencé en 2011 dans la salle d'armes de Ramonville, puis s'est diffusée à grande vitesse en région de Bruxelles, à Villeneuve, au Candil, Toulouse, Saint-Gaudens, a débordé en Occitanie, à Castres, à Auch, à Rodez, à Tarbes, et j'en passe, et a conquis la France entière, puisque Solution Riposte se pratique maintenant à Brest, à Nancy, à Limoges, à Nîmes, à Montpellier, à Dax et en d'autres lieux. Et enfin, Solution Riposte s'est exportée, puisqu'elle est pratiquée notamment en Suisse et en Belgique. Et cette aventure a valu à Solution Riposte le prix féminin de 2014, qui est donné au niveau national par la Dépêche. Pour les riposteuses, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, cette forme de réhabilitation est une discipline enrichissante, un moment de détente, sans tabou, un sas de respiration dans l'épreuve, une façon élégante de défouler la rage du corps abîmé et de se désinhiber. Cette phrase est complètement extraite d'interviews de personnes pratiquant solution du poste, de femmes ayant été atteintes du cancer du sein et pratiquant solution du poste. Et comme Dominique a plus d'un défi dans son sac, eh bien, elle a introduit l'escrime à Sels, où elle sert d'exutoire pour les femmes exécutant, effectuant une peine de prison. L'escrime permet de canaliser l'énergie, d'apprendre le respect des règles et des consignes, mais aussi le respect des autres. Et maintenant, pourquoi s'arrêter? Alors le rugby, les pratiquantes étant licenciées de la Fédération française de rugby. Et demain, Solution Riposte s'exportera vers d'autres sports, puisque dans les perspectives, il y a le tir à l'arc, la marche nordique ou le tennis de table, voire le karaté. Une autre façon aussi de montrer à toutes les personnes touchées que malgré l'opération mutilante ou un handicap, on peut vivre comme tout le monde. Mais aussi de nous montrer à nous que les personnes vivant avec un handicap ou abîmées par la maladie doivent être considérés de la même façon, avec le même regard que les autres, ce regard de la société qui doit changer. Parce que c'est d'abord une affaire de cœur. Je laisse la parole à Dominique.
Merci Bernard, tu ne savais pas que je t'avais raconté tant de choses, à mon avis tu les as trouvées ailleurs. Alors aujourd'hui, effectivement, je ne vais pas vous parler de solution riposte. Je vais vous parler du regard de la société sur le handicap. Qu'est-ce que c'est un handicap? Et on va commencer par la définition de l'OMS. Il y a des mots qui sont importants dedans. Le handicap, c'est le résultat d'une interaction entre les déficiences physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, entraînant des incapacités plus ou moins importantes, qui sont renforcées en raison d'un environnement inadapté ou inaccessible. L'environnement, entre autres, c'est nous qui le faisons. Donc en fait, c'est interaction entre les déficiences qui donnent des incapacités et nous. C'est ça le handicap. Alors je vais quand même vous raconter des histoires. Mais il y a d'abord une première chose sur laquelle je veux insister. 85% des handicaps ne se voient pas. C'est qu'on ne voit que la face cachée de l'iceberg. Et quand on marque handicap, c'est un monsieur en chaise roulante. C'est minime. Le handicap, c'est pas ça. Il y a certaines maladies, rares ou non. Il y a des maladies orphelines, bien sûr, qui donnent des handicaps, et ça ne se voit pas, mais il y a plein d'autres maladies. Je vais vous donner des exemples. Certains problèmes psychologiques, qu'ils soient passagers, ou qu'ils soient tout le temps là. Des atteintes motrices ou sensorielles mineures. On va en parler, je vais vous donner des exemples pour tout. Et des difficultés d'apprentissage. Ce qu'il y a comme problème, c'est que quelqu'un qui a un handicap qui ne se voit pas, on va le juger, on va avoir une idée de pourquoi il ne fait pas ce qu'on pense. Ben, l'idée, elle est souvent pas bonne. C'est-à-dire qu'on va penser quelquefois que c'est du mépris, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Je vous donne un exemple. J'appartenais il y a très longtemps à un club service de femmes. Et j'avais une amie, elle ne venait jamais au repas. Et la présidente, qui n'était pas d'une grande finesse, arrêtait pas de se péter sa tête en disant « Ah ah ah, elle est en réunion, elle n'est pas au repas. Bon, bref, elle nous prend pour des imbéciles. » Elle a quitté ce club à cause de cette attitude, justement, de mépris et de rigolade de la présidente. Et comme c'était une amie, elle est venue me voir, elle m'a dit « Tu sais, j'ai une maladie qui s'appelle la mégaœsophage. » C'est-à-dire, en pratique, elle avait un œsophage tellement grand qu'elle ne pouvait plus manger que du liquide. Alors attention, si vous avez une collègue qui ne vient pas au repas, c'est pas automatiquement parce qu'elle bêche, c'est peut-être parce qu'elle ne peut pas. Voilà. Ce sont des petites choses comme ça. Vous savez, quelqu'un qui a une canne blanche ou qui a un chien d'aveugle, vous allez dire c'est un malvoyant ou un non-voyant. Mais vous avez plein de personnes qui n'ont pas de chien, qui n'ont pas de canne blanche parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Moyennant quoi, ils ont une visibilité très basse. Et donc tout le temps, il va falloir qu'ils disent ça. Vous ne le voyez pas. Donc vous allez penser qu'à la poste, il vous agace, quoi. Parce qu'il met un temps à écrire qui n'est pas possible. Peut-être que c'est juste ça, en fait. Qu'il ne voit pas bien, qu'il n'entend pas bien. Une femme qui a eu un cancer du sein, il y a des gestes qu'elle ne peut plus faire. Elle peut ouvrir les rideaux, elle ne peut plus se coiffer. Elle ne peut plus porter un enfant. C'est pas parce qu'elle ne veut pas. C'est parce qu'à cause de la chirurgie, elle ne peut plus. Pas toutes, mais il y en a beaucoup qui ne peuvent. Donc, attention au jugement qu'on fait vis-à-vis de certaines personnes qui paraissent tout à fait comme vous, mais qui ne réagissent pas comme vous, qui ne font pas ce que vous faites, simplement parce que, souvent, ils ou elles ne peuvent pas. Ça fait partie des handicaps. Donc ça, c'est quelque chose de très important. 85% des handicaps ne se voient pas. Et quand ça ne se voit pas, ça ne se comprend pas. C'est modulé par l'environnement. Comme je vous ai expliqué, l'environnement, c'est nous. Et le sport, je ne vais pas vous parler que de sport, hein, mais le sport, c'est un facteur de santé pour les personnes en situation de handicap, pour tous les handicaps. Voilà. Je vais insister là-dessus pour tous les handicaps. Pour ses effets sur le cœur, la tension, le poids, les addictions, sur l'intégration dans la vie sociale, sur la qualité de vie. Et on va voir l'importance dans certains cas particuliers. Alors, il y a des problématiques différentes selon les types de handicap. Et on va faire deux grands flashs. Un, c'est le handicap mental, ce qu'on appelle le handicap mental en général, mais on va voir qu'il y a quand même trois types de handicap qui sont différents. Le handicap physique, qui peut être moteur ou sensoriel. Et puis les handicaps, ça peut être modéré à sévère. Ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis il y a l'environnement. Et l'environnement, bien sûr, c'est nous, mais c'est aussi un environnement hyper protecteur ou pas du tout. Et on verra les conséquences que ça a, une famille hyper protectrice vis-à-vis d'un enfant ou d'un jeune ou d'un adolescent en situation de handicap. Alors, petite chose, sachez que plus, quand c'est un handicap physique dû à un accident, plus l'accident est tôt dans la vie. Meilleures sont les suites, c'est terrible de le dire, mais on se relève plus d'un handicap, un enfant qui est paraplégique après une chute, mais il va faire une vie beaucoup plus facilement que celui qui est à 35 ans. Ça, ce sont des états de vie. Alors le handicap, mais ça a évolué dans les esprits, parce que ça a évolué, mais pas complètement. Dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, c'était la colère des dieux. Le châtiment divin, la faute. Alors, vous voulez que je vous dise, c'est encore vrai. Il y a encore des gens qui le pensent. Après, il y avait la culpabilisation des parents. C'est votre faute. C'est votre faute à vos parents. Si cet enfant ne va pas bien, eh bien, c'est encore vrai. Il y a eu les handicapés héros, les gueules cassées de la guerre 14-18. Alors là, on a commencé à se dire que ben finalement, on pouvait être handicapé et avoir sauvé la France. Donc déjà, dans les esprits, ça change. Et puis, vous le savez, en 1980, il y a commencé à avoir une obligation de compétitivité, de performance, quelque chose de fou, il fallait faire des études, il fallait être des entrepreneurs. Et là, on a un petit peu oblitéré la fragilité. Bien évidemment, comment voulez-vous être entrepreneur et avancer si vous traînez quelqu'un de fragile? Ce n'est pas possible. On avait commencé à mettre de côté ou à ne plus parler des personnes en situation de handicap. Et puis il y a la crise qui est passée par là. Et cette crise, elle a fait une prise de conscience de l'existence que chacun peut être fragile. Alors, pour vous donner un exemple, il y avait une étude qui avait été faite en 1980 et on avait demandé aux gens, est-ce que vous pensez qu'un jour vous pouvez être SDF? Une personne sur cinq a répondu oui. On a fait la même étude il y a quelques années, pas longtemps. Deux personnes sur trois ont répondu oui. C'est dire que beaucoup de monde prend conscience, beaucoup de personnes actuellement prennent conscience de leur fragilité et de la fragilité de leur situation. Ce qui n'était pas vrai il y a 40 ans. Donc, ce regard de la société, eh bien, ce regard de la société s'améliore. Alors, les handicaps, il y a deux types très différents, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les handicapés physiques, ils ont la même manière de penser que vous. Ils ont un handicap en plus de votre vie, mais ce sont des gens comme vous et moi. Dans le handicap mental, la communication est souvent plus aléatoire. C'est vrai. Et puis, il y a quand même des gens, je vous en montrerai un tout à l'heure, qui ont les deux associés, voire quelquefois trois handicaps associés, je vous en présenterai un, qui s'appelle François. Alors, on va suivre pendant quelques petites minutes une jeune fille qui s'appelle Soraya. Soraya est trisomique, vous le voyez. Alors, pour tout vous dire, Soraya est la fille de mon associé. Quand on est associé, c'est un vrai mariage, vous savez, entre un médecin et un associé. Il y en a qui se cassent la figure, et puis il y en a d'autres qui s'entendent très bien, quand j'ai de la chance. Et donc, mon associé Rosa, qui est espagnole, a une petite fille qui s'appelle Soraya. Du coup, je me suis beaucoup investie dans le handicap mental avec elle. Et en fait, il y a trois types de handicap mental. Ce qu'on appelle vrai handicap mental, c'est la déficience intellectuelle. Avec, comme premier exemple, la trisomie 21. Vous avez le handicap psychique. Et puis, vous avez le handicap cognitif. Sachez quand même qu'en France, chaque année, 6000 enfants qui naissent auront un handicap mental, psychique ou cognitif. 6000. C'est dire que nous n'avons pas le choix actuellement, il faut les intégrer dans notre société, chaque fois que c'est possible. Un handicap mental, c'est la déficience intellectuelle, c'est quelqu'un qui a un QI inférieur à ce qu'on appelle la normale, ce qui est considéré comme normal dans une société. Alors, qu'est-ce que ça a comme caractéristique? Eh bien, c'est difficile de manier l'abstraction, c'est ça surtout. Et puis, c'est difficile de faire face à des situations compliquées, et l'apprentissage est beaucoup plus lent. Donc, l'école sera beaucoup plus lente, tout sera beaucoup plus lent. Moi, j'aime bien cette photo, mais c'est une petite trisomique qui avait fait une pétition et qui avait demandé à ce qu'on l'aide à présenter la météo. C'était son rêve d'enfant, mal à fait. Alors, vous savez, les trisomiques sont des enfants et des jeunes délicieux. Ils sont absolument adorables. Ils sont affectueux, comme c'est pas permis. C'est vraiment des enfants adorables. Ce dont il faut se souvenir, c'est qu'ils ont une réaction inadaptée au stress. C'est-à-dire que dès qu'ils sont dans une situation où il y a un grand stress, une grande peur, là, ils ont une réaction inadaptée. Mais si on est dans le tout venant, dans le quotidien, eh bien, ce sont des jeunes adorables. Les trisomiques, quand ils ne sont pas trisomiques profonds, ils savent lire, ils savent écrire, ils savent compter, ils travaillent. Je veux dire, c'est pas du tout... dans le temps, il y avait les asiles pour aliénés, où on mettait tous les handicapés mentaux, et entre autres les trisomiques, mais non, maintenant, ils sont intégrés dans le milieu du travail. Alors, certes, c'est dans des centres spécialisés, mais ils sont intégrés dans le milieu du travail. Le handicap psychique, c'est les conséquences d'une maladie mentale. Mais, vous savez, c'est vaste, cette maladie mentale. Ça peut être une psychose, ça peut être plein de choses. Et le développement intellectuel, il est normal ou supérieur à la normale, mais c'est difficile d'exprimer ses capacités intellectuelles. C'est difficile de se concentrer. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que certains, grâce à la thérapeutique, grâce aux médicaments, ils peuvent limiter, voire guérir les perturbations des facultés mentales. Un dépressif, sous antidépresseur, il peut être parfaitement intégré dans son travail. Mais c'est vrai qu'il est plus fatigable. Et c'est vrai qu'il peut avoir des troubles de l'humeur. Puis le troisième type de handicap mental, c'est handicap cognitif. Alors ça, celui qu'on connaît le mieux, c'est l'autisme. L'autisme, c'est quand même une naissance sur 150 de nos jours. Actuellement, les dernières études tendent à dire qu'il y a des troubles autistiques et que c'est une naissance sur 100. C'est énorme. Alors, le handicap cognitif, l'autisme en particulier, c'est des difficultés de communication, des difficultés de montrer ou de comprendre les émotions. Alors, vous avez des autistes qui n'ont aucune intégration dans la vie sociale parce qu'ils sont effectivement autistes profonds. Vous avez des autistes, peut-être, dans votre milieu de travail. Vous ne le savez pas. L'autiste, c'est simple. Les thérapeutiques comportementalistes, comme ils ne savent pas ce que c'est que des émotions et qu'ils ont des problèmes de communication, on leur montre quelqu'un qui sourit. Et on dit, tu vois, il sourit, il est heureux, heureux. Ah, d'accord. Et là, il pleure. Il pleure. Alors, on leur montre des visages avec des larmes. Il pleure, il est malheureux. Je peux vous dire qu'un autiste, s'il vous voit pleurer de rire, il va venir vous consoler. Parce que pour lui, larmes, il n'est pas capable d'intégrer vos émotions. Par conséquent, les larmes, ça veut dire que vous êtes malheureux. Même si en fait, vous prenez un fou rire. Voilà. Donc c'est quelque chose de très particulier, l'autisme. La communication est difficile avec les enfants autistes. Moi qui en dors beaucoup d'enfants, pas comme les autres, les autistes, c'est le plus difficile. Et puis surtout, ils ont des gestes stéréotypés. Et ces gestes stéréotypés, c'est très angoissant pour celui qui est en face. C'est des gestes répétitifs. Et ça, c'est très très angoissant pour celui qui est en face. Alors le sport, c'est une action bénéfique sur la santé, sur le plaisir, sur le bien-être, sur la socialisation, sur l'autonomie. Et vous voyez qu'il y a plein de sports qu'ils peuvent pratiquer. Plein. Je vous avoue que la première fois que j'ai un maître d'armes, qui est le mien en plus, qui s'occupait d'handicapés mentaux à la mairie de Toulouse il y a quelques années, et moi j'étais depuis pas très longtemps médecin de ligue, et il me dit, viens, je fais une compétition. Un trisomique avec un sabre à la main, ça va, mais quand il y en a 80, je vais vous dire ce que vous faites l'effet. Et ça marche très bien. C'est que ça va sur les petits. Mais dès que vous avez un adolescent qui veut faire des matchs de rugby, qui veut devenir international, eh bien dans le groupe, vous n'avez pas les collègues autistes. Hein. Parce que son but, ce n'est plus le loisir, c'est la performance. Donc il faut être très vigilant quand on intègre un enfant pas comme les autres dans un groupe sportif. Parce que ça dépend des motivations du groupe. Ça ne se fait pas n'importe où. Alors, le regard sur le handicap mental, je vais finir là-dessus, c'est d'abord le regard sur les parents. Et ça, c'est quelque chose de difficile parce que les parents, ils ont une double peine. Ils ont ce regard des autres, avec souvent la culpabilisation. Je vous rappelle tout à l'heure, la faute, la punition divine. Cette culpabilisation, elle a été en particulier pour l'autisme, largement, comment dire ? Les psychiatres y ont beaucoup participé. Parce que pendant des années, ça existe encore, il y a des psychiatres analystes qui vous disent si l'enfant est autiste, si la mère a refusé sa grossesse. C'est pas culpabilisant du tout, ça. Alors que c'est des problèmes de médiateur, hein, soyons clairs. Donc, d'abord, c'est le regard sur les parents. J'ai encore été, il y a peu de temps, dans un blog, et c'était un blog musulman, et une jeune femme qui avait un enfant autiste répétait et disait « Qu'est-ce que j'ai fait à Allah pour que cet enfant soit comme ça ?» J'ai pas bu, j'ai pas trompé mon mari, j'ai pas fumé, j'ai pas fait ceci. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant comme ça? Difficile de faire comprendre qu'on n'a rien fait. C'est comme ça, c'est la génétique. Et puis il y a la fratrie à protéger. Parce que c'est pas facile pour les parents d'avoir un enfant en situation de handicap mental. Il faut savoir aussi ce que c'est le regard des autres vis-à-vis des petits frères, ou des grands frères, ou des petites sœurs, ou des grandes sœurs. C'est pas du tout simple. Donc attention au regard que nous portons sur la famille, parce que c'est elle qui se sentira le plus blessée. Et puis sur la personne elle-même, il y a encore des gens qui disent qu'il y a des choses qui sont contagieuses. Moi j'ai une dame qui m'a dit qu'elle ne serrait jamais la main à sa collègue qui avait un cancer du sein, parce qu'on ne sait jamais si on pouvait l'attraper par là. C'est rare, ça devient de plus en plus rare, mais ça existe encore. La violence, non. Ils ne sont pas violents, les handicapés mentaux. Certains, oui, qui ont des troubles de l'humeur, peuvent le devenir, mais dans le quotidien, ils ne sont pas violents. Et c'est vrai que, tout à l'heure, je regardais les statistiques, et en fait, il y a 3% des meurtres qui sont dus à des attitudes, à des pathologies psychiatriques. L'insécurité, ben oui, on se sent en insécurité, parce qu'on ne sait pas comment ils vont réagir. Et c'est normal de se sentir en insécurité. C'est pas une erreur, et c'est juste normal de se sentir en insécurité. En tout cas, c'est vrai que quand on est devant, qu'on n'a pas l'habitude d'être devant des enfants en situation de handicap mental, eh bien, beaucoup de nous ressentent un malaise. Il est normal ce malaise, il faut juste y passer dessus. Alors, je vais vous raconter une histoire avec mon club Rotary. Il y a quelques années, nous avons organisé un tournoi de tennis de table où il y avait des handicapés physiques, des handicapés mentaux, des handicapés psychiques et des valides. Et j'ai demandé à mon club, est-ce que vous venez? Et j'en ai plusieurs qui m'ont dit, on vient, mais on est terrorisé. Vous auriez au moins l'honnêteté de le reconnaître. On est terrorisé. Ça fait 10 ans qu'on fait cette compétition, il n'y en a pas eu qui manque maintenant. Parce qu'ils ont compris qu'un handicapé mental, ça ne se roulait pas automatiquement par terre. Ça ne hurlait pas. Il y en a qui peuvent le faire, bien sûr. Mais que c'était une compétition, entre guillemets, bon enfant, où tout le monde prenait du plaisir. Et ça, je crois que c'est le maître mot, c'est le plaisir. Alors, quelles sont les clés de la communication avec quelqu'un en situation de handicap mental? Moi, il y a un mot que je n'ai pas mis en premier, simplement parce que sinon il aurait été trop long en premier. Moi, pour moi, le premier mot, c'est la bienveillance. C'est le calme, c'est la patience, c'est établir une complicité, et éviter l'infantilisation. C'est pas parce que c'est une personne en situation de handicap mental qu'il faut lui parler bébé, ça ne sert à rien. S'adresser à la personne elle-même, pas à ses parents. Est-ce qu'il... Et alors, il mange bien, ce jeune homme? Non, c'est pas comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on ne le tutoie pas. Parce que, vous le savez, nous vous voyons quand nous ne connaissons pas, tout au moins avec la langue française. Eh bien, on ne tutoie pas un jeune, parce qu'il est handicapé mental, c'est pas vrai. On le voit, comme tout le monde. Il faut éviter l'ironie et le second degré, mais ça, je vous ai expliqué que le second degré, il ne pouvait pas comprendre. Tout ce qui est abstrait, c'est compliqué. Et puis, quelquefois, il faut savoir se contenter d'un sourire. Mais déjà, un sourire, c'est énorme. François, je vous en ai parlé tout à l'heure. Abandonné à la naissance. Sourd. Handicapé mental, handicapé physique sévère, vice-champion d'Europe de tennis de table. Donc vous voyez qu'on peut avancer, vous voyez qu'on peut en faire des choses. C'est vrai qu'il a une réaction au stress, pas possible. Et celui que vous avez à côté, je me souviens plus de son prénom, il est extraordinaire. Il est arrivé, lui c'est un handicapé mental et psychique. Et chaque fois qu'il perdait une balle, il passait de l'autre côté, il allait casser la gueule à son adversaire. Et puis, il disant un éducateur sportif qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Jean-Pierre Vergès, qui est quelqu'un de merveilleux. Et il lui a expliqué que non, on n'allait pas casser la gueule chaque fois qu'on ratait une balle. Et patiemment, avec beaucoup de patience. Eh bien, maintenant, depuis des années, je le vois perdre, avec le sourire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de voir ce changement. Alors, Jean-Pierre Vergès, je vous dirai juste un mot. C'est un monsieur qui ne paye pas de mine. Voilà. Ceinture noire de karaté, professeur de tennis de table. Il entraînait à Ramonville. Et un jour, on lui a dit, comme il est très gentil, est-ce que tu ne veux pas entraîner les handis? Il a dit si, si. Alors, il a pris les jeunes valides qui descendaient l'escalier, parce que la salle de ping-pong, elle était en haut. Qui descendaient l'escalier, qui montaient d'abord les sportifs, enfin, les personnes en situation de handicap, ensuite les fauteuils, ils faisaient les tennis de table, faisaient le retour. Et comme ça marchait bien, on lui a dit, tu ne veux pas prendre des handicapés mentaux? Il a dit, si, si. Si, si. Donc, il a commencé à entraîner des handicapés mentaux. Il s'est rendu compte que certains n'entendaient pas, donc il a appris le langage des signes. Et grâce à François, qui est arrivé en championnat d'Europe, il a fallu qu'il l'accompagne. Il a vu qu'il réagissait mal au stress, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ne criez jamais devant un enfant ou un jeune qui a un handicap mental, il va stresser. Si on lui parle calmement, il n'y a pas de problème. Et donc, il a fait un diplôme de sophrologie pour pouvoir l'accompagner au plus haut niveau. Des gens comme ça, ça mérite quand même le détour, c'est déjà assez fabuleux. Elle n'est pas jolie, Soraya. Je peux vous dire qu'elle est en troisième, qu'elle sait lire et lire compter, bien évidemment, mieux que d'autres qui sont en troisième d'ailleurs, qu'elle est parfaitement autonome. Alors, je ne dis pas, mais sachez que c'est mon acte espagnol, mon associé est espagnol, qu'elle l'a beaucoup stimulée depuis sa naissance, et qu'en Espagne, il y a des trisomiques universitaires. Donc, quand on veut et quand on s'y attache, on peut améliorer les choses. Le handicap physique. Je remercie toujours les Lyotes parce que franchement, le site prend ma place pour mon handicap. Si vous prenez ma place, prenez mon handicap, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui marque les esprits. Il y en a qui n'y voient pas ou pas, si vous voyez tous. Alors, ce qui a rendu le regard différent, bien sûr, c'est intouchable. Et heureusement que c'est sorti ce film. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire d'avoir cet autre regard sur le handicap. Handicap physique. Alors d'abord, il y a des contextes différents. Je ne vais pas vous faire un grand cours sur le handicap, mais il faut savoir qu'il peut être congénital, ou génétique, ou néonatal. Il peut être acquis par une maladie, par un accident. Et il peut être évolutif. Alors, le premier, ils ont appris à vivre avec depuis leur enfance. Le deuxième, on va en parler, c'est un petit peu plus violent, si j'ose dire. Et le troisième, c'est violent pour les personnes en situation de handicap, mais c'est aussi violent pour les accompagnants. Moi, je suis médecin des équipes de France, et c'est vrai que j'ai un jeune rugbyman dont je connais la maladie. Et je sais, je l'ai vu debout, pratiquer le tennis de table, et puis après il a fallu qu'il s'assoie parce qu'il ne pouvait plus rester debout, et puis après il a fallu qu'il soit en fauteuil électrique parce que petit à petit il se paralysait. Et pour les accompagnants, c'est terrible de voir ces jeunes qui ont une intelligence parfaitement normale, mais on sait qu'ils vont évoluer vers quelque chose d'inéluctable. Tous, il y a un deuil. Le deuil, c'est ce qu'on faisait avant et qu'on ne fait plus. Et qu'on ne pourra plus faire. Il y en a une qui vous en parlera tout à l'heure. De ce qu'on ne pourra jamais faire quand il est congénital. Ben oui, il y a des choses. Un malvoyant, il ne pourra jamais conduire. Mais c'est un deuil, tout ça. Et puis de la guérison, quand il est évolutif. Et la limitation des activités, elle est majorée par les incivilités des citoyens. Je vais vous donner un exemple. Je me suis fait agresser un jour par le tueur de Toulouse, mais c'est pas grave, ça m'est égal. Je l'attends pour mon tour, par la riposte. Quand j'ai commencé à discuter avec Maxime, qui est un grand champion, je lui ai dit, Maxime, l'accessibilité, diversité, des choses. Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent dans la vie de tous les jours, hors le fait que tu sois paraplégique? Et il m'a dit, oh, l'accessibilité, oui, ça va. Si, il y a quelque chose qui me gêne. Je suis obligée de mettre des gants. Ben oui. Parce qu'il y a des excréments de chien partout. Et comment on fait rouler les roues? On en prend plein les mains. Ça casse, hein? Ouais, ça casse. Je vous rappelle que le handicap, il est favorisé par les incivilités et par l'environnement. Ça, ça fait partie de l'environnement. C'est des difficultés quotidiennes. Transport, départ en vacances, travail, c'est compliqué, mais ça on va en reparler un petit peu. Et c'est surtout le regard des autres. Alors tout à l'heure, le regard des autres, pour le handicap mental, il était surtout pour les parents, c'est les parents qui sentaient le regard des autres. Là, c'est la personne elle-même, puisqu'elle a cette intelligence normale, cette manière, même manière de penser que vous, qui sent le regard des autres. Et ça donne souvent une grosse solitude. Vous voyez, les vélos qui sont attachés, et le fauteuil qui ne peut plus passer, la poussette non plus d'ailleurs, elle ne peut pas passer. Les gens qui se garent pour 5 minutes sur les places handicapées, c'est... Il y a un livre de Marcel Ruffaut, un psychiatre pour lequel j'ai beaucoup de... j'ai rencontré, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Il a écrit un livre avec un handicapé et physique, un jeune qui avait eu un accident à l'âge de 8 ans. Et ce jeune disait qu'un jour, il avait vu quelqu'un se mettre sur une place handicapée, il avait baissé la vitre, il a dit... mais vous n'êtes pas handicapé, et là il s'est mis à faire exprès de marcher comme ça pour montrer qui il était. C'est violent, hein? Ça c'est une extrême violence. Alors le handisport, c'est encadré par la Fédération française d'handisport. Bon, de moins en moins, une fédération sportive qui inclut le handicap maintenant. Avec un budget comparable aux autres fédérations, il y a 23 sports de compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que le matériel est cher. Donc il faut trouver des financements pour ça. Et puis tout ce qu'il y a, c'est que quand vous voyez les handisports aux championnats du monde et des Jeux paralympiques, il faut savoir que c'est eux qui financent intégralement toutes les compétitions qualifiantes. Tous les stages d'entraînement, c'est eux qui doivent trouver des financements. C'est lourd. C'est-à-dire on fait qu'un sportif handisport, il faut qu'il aille chercher des financements pour pratiquer son sport en ligne. Et pour avoir du matériel. Ça, c'est quelque chose d'important. Les gens ne savent pas. La performance, elle dépend de l'entraînement, elle dépend du matériel. C'est quand ce matériel est sur mesure habituellement. Il faut le renouveler. Alors, elle dépend des choix politiques. Et oui, elle dépend des choix politiques. C'est bien embêtant, parce que les pays ne sont pas égaux. Il y a des pays qui ont professionnalisé leur handisport, mais pas la France. Donc, ça fait, pour les performances, ça fait quand même des grosses différences. Les Jeux paralympiques sont organisés par le Comité international paralympique. Alors, j'entends souvent la question, pourquoi c'est pas en même temps que les Jeux olympiques? Bien, c'est pas en même temps pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas les mêmes instances dirigeantes. Vous avez le CIO et vous avez le Comité international paralympique, CIP. C'est deux instances différentes. La deuxième raison, c'est que vous ne pourriez pas mettre dans le même village olympique en même temps les handisports et les baillets. Ça ferait trop de monde. C'est la deuxième raison. La flamme est éteinte à la fin des Jeux olympiques et rallumée au début des Jeux paralympiques. Alors, il y a certains sportifs paralympiques qui disent « c'est dommage, on l'éteint puis on la rallume pour nous, c'est une autre ». Il y en a d'autres qui disent « non, moi je veux voir allumer ma flamme ». Alors bon, c'est comme ça. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de... C'est comme ça que c'est fait, et pourquoi pas. Il y en a la moitié qui sont contents, et la moitié qui ne sont pas contents. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce n'est que depuis 2006, donc depuis 12 ans, que les récompenses pour les médailles d'or, d'argent et de bronze sont les mêmes pour les valides et les handis. C'est un esprit, évidemment, qu'on va remercier, c'est Jean-François Lamont. Et c'est lui qui a institué ça. 2006, c'était il n'y a pas longtemps. Quelques photos du village olympique, vous n'en avez pas vu beaucoup parce qu'on n'avait pas le droit de les passer sur les réseaux sociaux, on a le droit de les passer qu'en conférence. Donc là, vous allez voir quelques photos du village olympique Je crois que les mots clés au village olympique, c'était l'absence de regard. Vous savez, je suis sûre que vous connaissez des gens, hommes ou femmes, qui ont été amputés de prothèses. Sauf que vous le savez pas. Parce qu'ils mettent des pantalons. Voilà. Mais au village olympique, il n'y a pas de regard. Par conséquent, j'ai vu de tout. Et je vais vous montrer quelques photos. C'est la solidarité. Ça, c'est sûr que c'est la solidarité. C'est le respect. Ça, c'est les habituels chez les sportifs. C'est moins vrai chez les valides, quand même, dans certains endroits. C'est l'autonomie et l'autodérision. Je me suis retrouvée avec une petite Canadienne qui mangeait avec ses pieds parce qu'elle n'avait pas de bras, à côté de moi, dans le restaurant olympique, 4000 couverts. Hein, je ne sais pas si vous imaginez, un truc énorme. Elle mangeait avec ses Canadiennes françaises. Elle mangeait avec ses pieds. Et à un moment, avec sa cuillère, elle mettait la cuillère à la bouche, tranquille. Et puis à un moment, elle m'a dit, écoute, le raisin, je ne peux pas, tu peux me l'égrainer. Donc, j'ai égrené le raisin, et elle a pris sa fourchette, elle a piqué dans les mains, et elle les a mangés. Voilà. Et c'est l'autodérision. Moi, j'ai beaucoup aimé les concours de personnes de petite taille. Chaque fois que j'en rencontrais un, c'était, ah, je suis encore plus petit que toi, je suis encore plus petit que toi. C'est absolument extraordinaire. Et la photo qui a été extraordinaire, c'est un Turc qui avait une maladie qui s'appelle l'acromégalie, qui faisait 2,45 m, et s'est fait photographier à côté du plus petit nain. Voilà. Donc l'autodérision, elle existe. Mais elle peut exister, cette autodérision, parce qu'il n'y a pas le regard des autres. Sinon, elle ne pourrait pas exister. Vous pouvez vous payer votre propre tête dans la mesure où les gens sont bienveillants. Mais si les gens sont malveillants, vous n'allez pas faire de l'autodérision, pas vrai? Voilà le pavillon France. Voilà, c'est immense ce village olympique. C'est une ville. C'est une ville. Il faut un passe pour entrer, un passe pour sortir. Voilà, et je vous disais, pas le regard des autres. Les gens qui s'entraînent, sans bras. Tous les aveugles qui arrivent tous comme ça, toutes les équipes avec la main sur l'épaule, avec le. Les gens de petite taille, qui cherchent leur chemin. Chacun se mobilise comme il peut. Bon, les cyclistes, ils ont des vélos. Je peux dire que quelquefois, les vélos, c'est pas triste. Hein. Voilà, c'était pas au village olympique, mais je l'ai trouvé parce que je voulais raconter l'histoire de ma petite Canadienne. Les enfants qui n'ont pas de bras, il y en a beaucoup qui n'ont pas de bras, pas de jambes quelquefois. Amputés des quatre membres. Vous savez que c'est une complication de l'éningite. L'éningite, quand on tire un enfant, quand on lui sauve la vie d'une méningite, quelquefois c'est au prix d'une amputation des quatre membres. Voilà, quelquefois on a des visions un peu particulières. Ça, c'est les attributs d'une escrimeuse italienne, qui est d'ailleurs championne paralympique, de fleuret. Et ce que vous pouvez remarquer, surtout, c'est qu'il y a les bracelets au bon endroit sur le bras. Bon, c'est vrai que comme ça, sur la photo, ça choque quand même. Après, on a tellement l'habitude qu'on ne le voit plus. Voilà le sourire. C'était quelques-uns de mes sportifs. Ça, c'est Kathleen. Et je leur ai dit, je fais des conférences sur le handicap, tu veux bien? Ah oui, avec plaisir. Voilà. Donc ces sourires sont pour vous. Parce qu'effectivement, je les ai prises exprès. Et voyez que là, Kathleen, si vous la croisez dans la rue, là, n'importe où, vous ne verrez pas qu'elle a une prothèse. Parce qu'elle va s'habiller de manière à le cacher. L'équipe de basket. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les Jeux paralympiques? C'est que les Lyonnais sont les compétitions en e-sport, c'est qu'il n'y a personne dans les grands. Personne. Et le plus beau cadeau que vous pouvez faire à une équipe, quel que soit le sport, à une équipe en e-sport, c'est pas de leur faire un chèque, c'est d'aller les voir. Vous n'imaginez pas les compétitions en personne. C'est que mon mari aime beaucoup le Toulouse Iron Club, le club de basket de Toulouse. C'est navrant. Vous avez des compétitions internationales, vous avez 10 personnes qui les regardent. Deux épouses, la maman, etc. Il n'y a personne. Personne, personne. Alors, au jeu, les gens sont là, parce que tout le temps, on les envoie manu militari. Les Brésiliens vont faire les places, et de la même manière que les Chinois, c'était toujours plat. Bien évidemment, mais c'est plat pour les fidèles, parce qu'on leur demande que ce soit plat. Voilà. Mais là, c'était quand même les jeux. Il y a les supporters, bien sûr. Enfin, comme vous voyez, on n'est pas très nombreux, c'était la médaille de bronze. Là, qui était tirée. Voilà. Ma foi, on a de la voix, hein, je vous rassure. On crie pour tout le stade. Il y a les parents qui sont là. Ça, c'est les parents de Maxime. Et puis, il y a aussi quelque chose qui évolue, c'est les adversaires qui sont nouveaux. Il y a en particulier un e-sport, ce qu'on a, c'est les pays en guerre. Parce que comme ils ont beaucoup de personnes amputées, paraplégiques, etc., ils les réhabilitent par le sport, et par conséquent, le jour où on s'est fait battre par l'équipe d'Irak, moi ça me fait mal au ventre, mais j'ai compris pourquoi. Surtout que ce sont des guerriers. Ils sont dans des pays en guerre. Et donc ça, ce sont des choses qui montent. Et puis il y a les pays où leur e-sport est professionnalisé. C'est la Chine, c'est l'Italie, il y en a beaucoup d'autres, en Europe de l'Est. Leur e-sport est professionnalisé. C'est-à-dire que là, on va avoir un petit peu de boulot pour garder nos sportifs à nous, en France, qui sont obligés de travailler et de chercher des financements. On va avoir un peu de travail pour les amener à combattre ces gens qui sont payés pour s'entraîner. Donc là, on a vraiment quelque chose. Et c'est vrai que les compétitions en e-sport, c'est assez terrible. Moi, je me souviens avoir surveillé une Coupe du Monde, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, à Louis-Lumière. Et le maître me fait tout visiter, voilà, tu as le vestiaire des Canadiens, le vestiaire de ceci, le vestiaire de cela, puis il m'amène dans un long couloir, etc. Et puis il me dit, là tu as le vestiaire des Israéliens, pourquoi ils sont vraiment en forme. Il me dit, parce qu'il y a toujours des menaces, il y a toujours des menaces dans ces pays-là, par conséquent on est obligé. Il y avait deux personnes devant le vestiaire des Israéliens qui ne sont pas venues, hein, parce que c'est un autre problème. Voilà, pour l'anecdote, je n'ai eu qu'une urgence. Lors de ces championnats du monde, une urgence que je n'avais jamais eue en 30 ans de médecine fédérale et de surveillance de compétition, une morsure de chien. Voilà. Parce que pour surveiller les Israéliens, il y avait deux gardiens avec deux chiens, et il y a un Italien qui est allé faire guili-guili au chien. Et voilà, le chien a fait son mot de chien. Et bien, bon. Ça, c'est dans les annales.
J'ai jamais eu ça à Muret, tu vois.
Jamais une morsure de chien. Non, pas de chien. Alors, la vision et le regard. La vision, c'est ce qu'on voit, c'est l'œil qui voit. C'est carré, c'est triangulaire, c'est rouge, c'est bleu, c'est, bon, sauf sur le daltonien. Voilà. Le regard, c'est ce qu'on voit sans être objectif. Voilà. L'exemple de l'anorexie mentale. Il ne faut jamais demander à une jeune fille anorexique mentale de se regarder dans la glace. C'est pas la peine. Elle ne se voit pas. Elle ne se voit pas telle qu'elle est. Vous savez, il n'y a pas que les filles qui font l'anorexie mentale. Hein. Il y a des garçons aussi qui ont ce qu'on appelle le syndrome d'Adonis. Vous savez ce que c'est le syndrome d'Adonis? C'est que vous prenez deux garçons qui font de la musculation, qui ont exactement le même poids, la même taille, le même muscle, et bien il y en a un, il va se trouver beaucoup moins costaud que l'autre. C'est le syndrome d'Adonis. C'est l'équivalent de l'anorexie mentale. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouffer des anabolisants et des protéines pour refaire du muscle. C'est l'équivalent de l'anorexie mentale chez l'homme. Donc ça, c'est le regard. Alors le regard des autres, c'est dans le handicap physique, c'est quelques réflexions. Alors vous allez me dire, c'est impossible. Je n'ose pas vous dire que je vous ai presque tout entendu. Et ces réflexions, elles sont dues aussi à cette peur. Soyons clairs, quand vous voyez quelqu'un en situation de handicap, vous prenez en pleine face votre propre fragilité. Ça peut m'arriver. Et c'est difficile de se dire, ça peut m'arriver. Je peux, moi aussi, me retrouver sur mon fauteuil, parce que j'aurais eu un accident de la route, parce que j'aurais été renversé par une voiture, parce que je serais tombé d'échelle. C'est possible. Alors, ces réflexions, c'est plus des maladresses Mais le premier, c'est l'évitement, et je crois que c'est celui qui est peut-être un des plus vieux. Il y en a plusieurs. L'évitement, c'est, oula, je ne vais pas savoir quoi lui dire, alors je passe à côté, je ne dis pas bonjour, je ne le vois pas. C'est fréquent. Je ne vais pas lui dire bonjour, d'abord je ne saurais pas quoi lui dire. Bon, là. Plutôt que de dire une bêtise, je ne dirai rien. L'antipathie. Alors, l'antipathie, c'est, hein, vous êtes dans le nom de situation, vous, hein. Oula. Je ne ferais pas être à votre place. Et l'antipathie raisonneuse. L'antipathie raisonneuse, pour moi, c'est la pire. C'est, ouais, vous êtes dans un fauteuil. Mais si vous sortiez moins, si vous étiez moins sorti, vous n'auriez pas eu cet accident, hein, à 2h du matin. Mais vous me direz après s'ils ne sont pas certaines réflexions qu'on entend. Pas de vous, parce que vous ne seriez pas ici. Comprenez, le problème il est là. C'est que les gens qui sont capables de le faire, ils ne viennent pas à ce type de conférence. Voilà le problème. La compassion stérile, c'est, ah mon Dieu, mais c'est affreux ce qui vous arrive. Mais c'est affreux. Oh non, mais c'est terrible. C'est terrible. Voilà. La compassion destructrice, ça aussi j'ai entendu. C'est mon Dieu, mais c'est affreux ce qui vous arrive. Si j'étais vous, moi je me suiciderais. Il y a la sympathie hasardeuse. Et d'accord, vous n'y voyez pas, vous voulez traverser l'autoroute, vous n'allez pas y arriver, je vais vous tenir la main, on va la traverser tous les deux. Puis je vais fermer les yeux parce que... Hein. C'est celui qui est dans les sables mouvants, on dit, oulala, attendez, je vais vous sauver, et on sort dedans. Donc, on est dedans. Il y a la sympathie envahissante. Ça, c'est typiquement le supermarché. Oulala, vous êtes dans le forêt, écoutez, donnez-moi votre liste, je vais vous faire les courses. L'empathie, elle se résume à une seule phrase. Est-ce que je peux vous aider? Je me suis rendu compte l'autre jour que mon mari avait écouté tout ce que je racontais. Parce qu'on était à Reims. À Reims, je ne sais plus. Et à Dijon, voilà. À Dijon, j'étais faire une conférence là-bas, enfin un peu plus loin. Et il y a un monsieur qui est aveugle qui se balade avec sa canne. J'ai vu mon époux arriver lui dire: je peux vous aider ou vous pouvez vous débrouiller tout seul? Il a dit, ah ben non, justement, je suis perdu, alors aidez-moi. C'est comme ça qu'il faut faire. Mon ami qui s'appelle, que je vais vous montrer, qui s'appelle Pascal Casanova, qui est triple championne paralympique de ski alpin, est malvoyante. Et elle m'a dit, si tu savais le nombre de fois où je me suis retrouvée en bas de l'escalier du métro alors que je ne voulais pas le prendre. C'est ça la sympathie hasardeuse. C'est allez, venez, je vous fais traverser. Je ne veux pas, moi, je veux rester là. J'attends quelqu'un. Et on se retrouve de l'autre côté de la rue. Donc il y a manière et manière de dire, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? C'est oui, c'est non. Et là, la réponse, elle vient immédiatement. C'est pas si compliqué, hein. Bon. La bonne attitude, c'est de gérer ses émotions. Et je vais vous dire, c'est pas facile. Même pour nous, c'est pas facile. Même pour nous, c'est pas facile de gérer nos émotions. Même nous qui sommes en permanence, mais souvent en contact avec des personnes en situation de handicap, il faut essayer de ne pas pleurer dès qu'on la voit. Quoi. Parce que elle a assez de poids à porter, il ne faut pas en plus qu'elle porte le poids de votre peine à vous. Ça suffit. Posez des questions, il ne faut pas avoir peur de faire des CAF. Des CAF, on en fait tout le temps. Mais bon, on en fait aussi avec la population classique des CAF. Hein. Qui c'est qui a jamais demandé à une dame quand est-ce qu'elle allait accoucher alors que vous m'avez expliqué qu'elle est pas enceinte? Moi, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, une jeune femme qui arrive avec trois enfants, au moment, tu dis, oh, il y a un quatrième? Non, pas du tout. Et c'est arrivé à tout le monde. Et les CAF, ça arrive à tout le monde. Maxime, un jour, je l'invite à mon club Rotary, il est bourré de parking. Et donc, à 11h du soir, je lui dis, Nathan, moi je ne peux pas. Comment tu vas faire? Je lui dis, moi je ne peux pas te prendre une décapotable et puis je ne peux pas mettre le fauteuil. Il me dit, bah, je vais y aller au parking. Je lui dis, tu vas y aller à pied? Et là, je me suis sortie envahie. Qu'est-ce que je raconte? Il m'a répondu, bah oui, je vais aller à pied, au moment où tu veux que j'y aille. D'accord. Ne pas trop en faire. Je me souviens un jour d'un de mes sportifs de haut niveau qui s'appelle Marc André, qui me dit, on était reçus aux Invalides, et qui me dit, viens, je t'emmène, c'était à cette compétition justement, viens, je t'emmène. Donc on descend dans le parking, il se met dans le paraplégique très haut, il se met dans le fauteuil, il commence à plier son fauteuil, et moi évidemment, qu'est-ce que je fais? J'attrape le fauteuil, il est malheureuse, il est martiniqué, malheureuse, mais comment je vais faire après pour le retrouver?
Et c'est vrai.
Voilà. On apprend qu'il ne faut pas trop voir. Il faut juste faire ce qu'il faut. Il faut observer aussi, parce que vous savez, je débrouille très bien. Hein. Ma petite Canadienne qui mange avec des doigts, je n'ai pas pris la cuillère pour la faire manger. Hein. Surtout pas. Ils ont des trésors d'ingéniosité. Et puis, surtout, s'appuyer sur ce qui est commun. Une personne en situation de handicap, elle a des enfants, des petits-enfants, elle a des couples, elle s'engueule avec son mari ou sa femme comme les autres. Elle fait exactement comme vous. Donc, au lieu de parler de son handicap que pour le sujet, mais parler justement de sa vie ou de la vôtre, parce que c'est la même vie que vous, sauf qu'ils ont quelques difficultés en plus. Alors, il y a une loi en 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Alors, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour le handicap mental et le handicap physique. Hein. Et il y avait 10 ans pour l'accessibilité. Bon, on a du boulot. Encore. Face à l'emploi, je vais vous donner juste quelques flashs qui sont importants à connaître. Face à l'emploi, 2 fois plus de chômage chez les personnes handicapées. Et pour l'ensemble de la population, 7% de cas contre 17% par niveau. Et 65% d'employés et d'ouvriers contre 49% parmi les médecins. Il y a une boîte de stratégie américaine, canadienne, non, américaine, qui a fait quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. C'est un petit manuel de savoir-vivre entre valides et handicapés dans l'entreprise. Et je crois que c'est quelque chose d'important d'expliquer aux gens, quand il y a une personne handicapée, que ce n'est pas automatiquement aux valides à faire tous les efforts. C'est aux handicapés aussi à exprimer ses besoins. C'est pas unilatéral. Le meilleur moyen de vivre ensemble, c'est que chacun ait des droits et des devoirs. C'est pas qu'il y en ait un qui ait des devoirs et l'autre qui ait des droits. Ça n'a jamais marché et ça ne peut pas marcher. Donc c'est des conseils qui sont expliqués pour les valides d'être naturels, arrêter de s'écouter, poser des questions, pas trop en faire et observer. C'est un petit peu ce que je vous ai dit. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est être bienveillant vis-à-vis des autres, clair sur ses besoins, expliquer, rire. Éviter le repli. Et j'ai même le mari d'une infirmière avec qui je travaille qui est paraplégique et qui a dit « Ouais, mais en fait, c'est à nous aussi à ne pas attendre tout. C'est à nous à exprimer les choses. » Donc ça, c'est quelque chose que je crois très très important, c'est de dire qu'il n'y en a pas un qui a des droits et l'autre qui a des devoirs. Les deux ont des droits et des devoirs. Scolarité, la scolarité c'est difficile. Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est difficile. Il y en a 11% qui obtiennent le baccalauréat versus 77%. C'est aussi parce que je vous ai parlé tout à l'heure des familles hyper protectrices. Tu ne vas pas faire ça parce que ça va te fatiguer, tu vas rester à la maison. Ben non. Moi j'ai un jeune de 40 ans, comme Michael, qui est infirme moteur cérébral. Et il est allé, ses parents l'ont mis très rapidement en Provence, ses parents l'ont mis dans une maison pour personnes handicapées. Et il me dit, on m'a beaucoup fait jouer, dessiner, faire des trucs, on m'a fait faire un petit peu de sport, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et moi, je voulais apprendre. Et c'est sa grand-mère, qui était institutrice, qui a dit, on va l'apprendre, à lire, à compter, on va lui apprendre tout ce qu'on peut. Elle l'a poussé à ça. Il est sorti de cette maison contre la vie de ses parents. Il a tout rattrapé. Il est capétien. Il a une capacité à l'être. Voilà. Si bien que quelquefois, c'est les familles qui ne veulent pas avancer. Et quelque part, moi qui suis une mère, mon fils en chaise roulante, si j'habitais, je ne sais pas, moi, Saint-Gaudens, ce serait inquiète de l'envoyer à Toulouse pour faire des études. C'est vrai que c'est inquiétant. Donc, il y a cette hyperprotection qui fait que Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'accessibilité, il y a aussi l'aménagement et l'adaptation pédagogique. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas que l'hyperprotection de parents.
Bon.
Je ne vais pas vous faire tous les chiffres, hein, mais vous le savez encore du coup. Bon, il y a quoi, c'est difficile aussi, c'est pas si simple. En Grande-Bretagne, ça date de 95 et c'est respecté. 20% d'habitants en Grande-Bretagne, c'est pour ça qu'ils sont si forts, les Anglais en handisport, c'est eux qui l'ont créé, le handisport. Les médias retransmettent autant les compétitions sportives des adultes que des handisports. Alors ça, en France, c'est pas fait. Hein. À part les jeux, c'est pas fait du tout. Dites-moi, hein, vous m'appelez sur toujours mon portable si vous en voyez une qui ne soit pas les jeux. Parce que ça ne paraît jamais. L'Espagne était très en avance jusqu'à la crise. Et la Suède. Eh bien, la Suède a choisi aussi de sortir les jeunes handicapés des institutions. Mais la crise est passée par là et c'est pareil. Ça pose un problème de compétitivité toujours. Ça, c'est un journaliste. Avec un journaliste de la BBC. Allez, je vais vous faire écouter un petit peu des paroles, trois paroles de sportifs handicapés.
À 16 ans, Damien a eu un accident de la route. Aujourd'hui, il a 24 ans et travaille comme dessinateur industriel dans une entreprise de l'agglomération toulousaine.
En étant en fauteuil, je ne pense pas que derrière l'ordinateur, ça change quelque chose en fauteuil ou pas en fauteuil. On est assis dans tous les cas.
Pour l'employeur de Damien, aucune différence. Ce qui compte, c'est la compétence.
On a fait un petit bout d'essai, ça s'est avéré concluant. Et le fait qu'on déménage nous a permis de réaliser les quelques petits travaux pour bien l'intégrer dans la société.
18h, le travail est terminé pour Damien.
Donc là, on va au palais des sports pour mon entraînement de basket. J'y vais 2 à 3 fois par semaine.
En fauteuil, on a besoin de bouger pour sentir bien, quoi. Pour être fatigué le soir, pour devoir dormir, quoi. C'était pas du tout sport collectif, mais bon, il fallait un truc où je retrouve du contact et de la douleur.
Damien n'est pas un cas isolé au Toulouse Invalides Club. Tous ses coéquipiers travaillent. Ces basketteurs font partie des 15 000 handicapés de la région à avoir un emploi.
Le travail, le sport, tous ces deux ingrédients mis ensemble, ça permet de sortir de l'isolement et de revivre et de vivre une vie normale, quoi.
Ça permet de se construire et d'apprendre à connaître son corps et à redécouvrir et à dépasser ses limites, ouais, c'est sûr, quoi. À partir du moment où on s'apitoie plus sur son sort, les gens nous voient différemment, je pense, quoi.
Que ce soit dans le sport ou dans le travail, pour ces personnes handicapées, l'important, c'est d'avoir une activité et de se sentir capable.
Le matin, on se lève, on a une lutte. Soit c'est aller au travail, soit c'est faire du sport. Quand on reste chez nous à rien faire, oui, qu'on soit en fauteuil ou pas, on boit du noir et on fait rien que sa journée, donc on démoralise. Hein. Je pense que c'est le même cas pour tout le monde, quoi.
Voilà mon ami Pascal. Ah, pourquoi j'ai plus... Non. Ah voilà, je l'ai perdu. Alors Pascal est triple championne paralympique de ski alpin, elle a 11 médailles paralympiques, et moi qui n'ai jamais passé plus loin que la piste baby, je lui dis que vraiment il faut être aveugle pour faire ce qu'elle fait, parce que voilà, elle aime bien plaisanter, par conséquent elle le prend très bien, vous allez le voir.
Je fais du ski en compétition dans ma catégorie de handicap, donc malvoyant. Je cours avec un guide, c'est-à-dire une personne qui passe devant moi dans le tracé et on doit avoir une seule trace dans la neige pour nous deux. C'est avant tout une relation de confiance. Il faut, sans jeu de mots malvenu, que j'ai une confiance aveugle en elle. Imaginez-vous au départ d'une piste avec les yeux bandés et quelqu'un qui va vous dire « bon ben maintenant tu me suis ». J'ai une acuité visuelle qui est très très faible puisque j'ai un 1/30. Pour quelqu'un de valide, c'est ça ou être aveugle, c'est pareil. Alors que pour moi, c'est déjà énorme. J'ai toujours vécu comme ça, je connais heureusement rien d'autre. Donc quelque part, je ne sais pas ce que je perds. Je fais du sport comme n'importe qui ferait du sport, sauf que je suis exigeante comme n'importe quel compétiteur vis-à-vis de moi-même.
Voilà Pascal. Maintenant, je vais vous présenter une escrimeuse quand même. Alors, vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Je ne connais rien d'autre. Ça, c'est le handicap congénital. Et maintenant, vous allez voir la suivante qui, elle, en revanche, a connu d'autres choses.
J'ai passé une des trois armes en escrime, mais c'est une arme qui me permet de pouvoir jouer plus facilement avec mon adversaire. C'est un sport de combat, donc c'est vraiment face à l'autre qu'on doit être meilleur et pas dans l'absolu. Il n'y a pas que la force physique qui joue. Il y a vraiment tout ce qui se passe dans la tête et la façon dont on peut avoir une vision du jeu. J'ai pas de notion de vouloir à me battre l'autre. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même et par là arriver à que l'autre soit déstabilisé et peut-être arriver à faire mon jeu. Quand on a un accident, quand on a un handicap, tout d'un coup, on dit tout ce qu'on pourra plus faire. On pourra plus marcher, monter des escaliers, voilà. On dit, vous pourrez plus faire ça. L'escrime m'a permis de voir tout ce que je pouvais faire. J'ai découvert aussi que j'étais capable de dépasser ça et de m'arracher un peu, en sortant un peu de moi-même.
Elle aussi, elle a dit quelque chose de très important, qui est mal français, alors Annie-Marie Haussmann, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quand même maintenant la présidente du comité paralympique français. Et elle a dit quelque chose de très important, c'est quand on a un handicap, on vous dit tout ce que vous ne pourrez plus faire. C'est-à-dire que toutes les grilles, en France et dans d'autres pays, il n'y a pas qu'en France, toutes les grilles sont en négatif. Il n'y a aucune grille en positif. Et ça, je trouve que c'est grave, parce que c'est les « vous pourrez plus ». Alors là, je vais vous raconter une histoire pour terminer. Puis après, je vous montrerai un dernier petit film avec son voyant. Ça, c'est tout simple, hein. C'est un sportif de haut niveau avec son médecin en grande tenue France aux Jeux paralympiques de Rio. Il s'appelle Ludovic. Le médecin, je ne sais pas comment il s'appelle, vous le connaissez un peu. Voilà, il y a un bête, il manque quelque chose. Ludovic, il a qu'une jambe. Et il a un bébé, donc il nous avait envoyé ça comme faire part. Ben, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai fait connaissance avec les équipes de France en 2011, vous avez compris que j'ai des belles skis. En plus, j'ai le vertige. Et donc, je pars au Ménuire pour les stages. Ils accompagnaient un stage. Et le maître d'armes vient me chercher à la gare de Moutier, je me souviens. Pas avec le camion, et je vois des télésièges, et fou, la maître, heureusement que c'est pas pour moi ça, hein, heureusement que je fais de l'escrime, et pas du. Parce que vraiment, j'ai un vertige. Bon, un jour, deux jours, je les vois, au niveau médical, conseil, nutrition, etc. Et puis, pour le troisième jour, ben, le soir, je dis, qu'est-ce qu'on fait demain? Il dit, demain, on part en montagne. Ah, il faut être, oui, il faut être, pas bon. Bon, je me suis dit, on va pousser les fauteuils dans la montagne à vache, c'est pas très bien. Et puis on part tous le matin, et je me retourne devant les œufs. Alors là, je dis, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, tu poses le fauteuil en neuf, et tu assis à côté. Bon, d'accord. Je pose le fauteuil en neuf. J'étais pas tranquille, mais bon, un neuf, ça va, comme une coque. Et je m'assis à côté. Et puis on arrive devant les télésièges. Et là, je suis devenue blême. Parce que j'ai une trouille bleue. Et là, mon Ludovic est arrivé, il avait 20 ans, 22 ans. Il est arrivé sur sa jambe unique, à cloche-pied. Et il m'a dit, tu as peur? J'ai dit, oui, Ludovic, j'ai peur. Tu sais, j'ai peur parce que j'ai perdu, j'ai très très peur sur le télésiège. Mais ne t'inquiète pas, je vais monter avec toi, je vais te tenir la main. Et je me suis retrouvée à 58 ans, avec un sportif dont j'avais la responsabilité médicale, qui avait une seule jambe, qui était à côté de moi dans le télésiège, qui me tenait la main en disant « T'as moins peur avec moi ?» C'est une grande leçon de modestie. On a de temps en temps des leçons de modestie, il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Voilà, juste pour vous dire que être médecin des équipes de France et être médecin des escrimeurs en général, parce que les escrimeurs ce sont des sportifs bien élevés, ce sont des sportifs solidaires, ce sont des sportifs merveilleux, les escrimeurs. Je n'aurais pas été médecin de notre fédération. Mais être médecin des équipes de France paralympique, c'est pas une fonction, c'est un privilège. Voilà mes champions. Ludo, Damien, Maxime. Maxime est toulousain. Et voilà mon Maxime et sa jolie fiancée, ce mari de 9 août. Voilà, les deux. Bon, elle n'a pas eu de lunettes, mais lui a donné le prix de France, ce qui est quand même énorme. Et hier, j'ai eu l'extrême honneur d'être membre invité à sa thèse de doctorat en médecine, puisque Maxime est doctorat en médecine. Depuis hier. Ça, c'est juste pour le gag, pour vous montrer qu'il y a des gens qui font des choses qui interpellent. Ouais, j'ai perdu encore ma flèche. Voilà. Et qu'on peut faire de l'autodérision avec le handicap. Soraya, et pour vous montrer simplement que, alors là, comment je vais faire, au secours, non, pour vous montrer que même avec un handicap mental, ah, est-ce que ça va marcher?
Depuis longtemps, nous l'avons dessiné à l'intérieur de tout le paysage. Et puis un jour il est venu, presque étranger, tout à fait inconnu, avec en plus un drôle de visage. Nous avons détourné le cœur un instant pour accueillir avec des pleurs notre enfant. C'est un enfant qui ne sera jamais comme les autres. C'est un enfant pas tout à fait pareil. C'est un enfant soleil. Il a grandi un peu plus lentement. Mais aujourd'hui, c'est lui qui nous apprend tous les secrets d'un bel éclat de rire. Si la tendresse habite quelque part, c'est à coup sûr au bout de son regard. Si vous saviez tout ce qu'il peut nous dire.
Au fil des heures, au fil des jours, maintenant, nous apprenons le mot d'amour de l'enfant. C'est un enfant qui ne sera jamais comme les autres. C'est un enfant pas tout à fait pareil. C'est un enfant soleil.
Voilà, c'est moi qui fais le cours à la capacité de médecine du sport sur le handicap mental. Et je leur dis chaque fois, je vous montre juste que c'est possible. S'il y a un seul message que je peux vous laisser, c'est celui. Merci. Je suis prête à répondre à vos questions, si vous en avez. Je vous ai pas tout cassé quand même. Oui.
Nous avons une mère dont le fils est bipolaire.
Oui.
Tout se passait très bien. Il était dans un établissement ESAT. Et dernièrement, on lui a dit qu'il n'était plus productif. Entendre ce terme voilà, violent et.
Ça me signale dans un ESAT, parce que franchement...
Je peux vous dire où c'est un âge.
Ça, c'est très violent.
Et ce jeune est complètement...
C'est destructif. Voilà. Destructeur. Voilà. C'est destructeur. Alors, les ESAT, c'est pas fait pour ça, évidemment. Le problème du handicap psychique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la fatigabilité. C'est une fatigabilité. Donc, effectivement, quelqu'un en situation de handicap psychique sévère, au bout de 4 heures, il ne peut plus travailler.
Voilà.
C'est ça. Mais bon, je veux bien que dans une entreprise classique où il faut de la productivité, on utilise dans un ESAT, c'est un choc. Je n'ai pas de réponse, bien sûr, mais,
non, non, non.
Mais dans un ESAT, c'est très choc.
C'est vraiment choquant.
C'est la non-volonté d'intégrer dans la société. Bon, maintenant, il y a des volontés partout, je veux dire, c'est comme ça, hein, je veux dire, c'est sûr. D'autres questions? Je vous ai tous cassé.
C'est merveilleux de voir que, en situation de handicap, on puisse communiquer, se serrer la main, se serrer, s'aimer. Et je crois que en aimant les autres, on va...
Je reviens à la bienveillance et à la complicité. Moi, je vous raconte une histoire, j'entends beaucoup d'enfants pas comme les autres, parce que ça se passe toujours bien et que par conséquent, les mamans me les amènent. Quoi. Et un jour, je suis bêtement à la poissonnerie avec Togo. Et il y avait une maman avec son fils qui devait avoir 35 ans, mais qui visiblement était handicapé mental. Et à un moment, je tourne vers moi, elle me saute au cou. Alors la maman qui dit, mais arrête, enfin arrête, je dis, non, vous inquiétez pas, madame, ça ne me pose aucun problème, moi j'ai l'habitude. Et il a regardé, c'était il n'y a pas si longtemps, il a regardé sa voix, il dit, elle est mignonne. Je dis, écoutez, à 60 ans, bon, voilà. Jeanne, tu me dis que vous êtes mignonne, c'est quand même bien. C'est ça ce message que je veux faire passer, c'est que bienveillance, recherche de complicité, le sourire simplement, et s'adresser à quelqu'un, et vous allez voir ce que vous allez avoir en retour. C'est quelque chose d'extraordinaire et tout se passe bien. Tout se passe bien. Le problème, c'est qu'on est inquiet quand on est en face d'un enfant, en particulier en situation de handicap mental, parce qu'on a peur qu'il hurle, qu'il dit « bon, vous n'avez pas sauté au cou d'un autiste », parce qu'il ne supporte pas, bien sûr. Mais ne serait-ce que la bienveillance... La patience de lui expliquer, de le regarder en face, de ne pas détourner les yeux. Seulement le problème, c'est que 80% de la population détourne les yeux face à quelqu'un comme ça. Situation de handicap physique, moins. Situation de handicap mental, oui.
Mais on a peut-être aussi peur de lui faire plus de mal. Hein.
Avec un sourire, avec une phrase gentille, vous ne ferez jamais mal à personne. L'indifférence, c'est pire. Si j'ai un message à faire passer, c'est ça. L'indifférence, c'est pire que le fait de dire quelque chose de gentil. Mais vous savez, je vais vous raconter une histoire. Ma meilleure amie est décédée d'un cancer il y a 2 ans, et elle avait depuis longtemps une leucémie. Et une leucémie chronique, et elle a été sous chimiothérapie. Elle a quand même une de ses autres grandes amies qui lui a dit « Tu vas en chino, mais t'as du pot, tu vas perdre du poids, moi j'y arrive pas. Oh. » Ça, c'est pas bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez un enfant, quel que soit le handicap, vous faites un sourire, vous dire comment tu vas, jeune homme, ou comment tu vas, jolie fille, et ne serait-ce que ça, vous allez illuminer sa journée et la vôtre. Les deux. Il ne s'agit pas de. Quand on ne sait pas qu'on a peur de blesser ou de dire une bêtise, mais on dit que des choses, que des banalités, mais les banalités en regardant en face et avec un sourire. Ça fait beaucoup. Moi, ce petit garçon à la poissonnerie, pourquoi il m'a sauté au cou? Je suis retournée, je lui ai fait un sourire. C'est tout. Ben, c'est... voilà. C'est pas grand-chose. Mais l'évitement, c'est pire. Plus de risques.
Une dame au dernier rang qui veut poser une question.
Je voulais dire quelque chose. Moi, je suis éducatrice spécialisée. En fait, j'ai fait pendant 40 ans. Ce que je voulais dire... Parce que je l'ai ressenti aussi par rapport à la maison de retraite où est ma maman à l'heure actuelle. Plusieurs personnes m'ont dit qu'ils avaient peur de se rendre à la maison de retraite et de voir des personnes très âgées et devenant handicapées. Je crois que par rapport aux personnes handicapées, enfants, jeunes, vieilles, le fait que la société, pour mieux s'en occuper, ait choisi de les mettre à part, fait que les valides ont du mal à aller vers eux, même s'ils ont toutes les bonnes intentions du monde. C'est-à-dire qu'on ne les connaît pas. Ce n'est pas quelque chose de naturel. On n'en voit pas. Et quand j'avais des collègues qui faisaient le marché le jeudi, parce qu'on les voyait avec les chaises roulantes d'enfants ou de personnes adultes, beaucoup de gens se détournaient, mais pas par méchanceté ou par manque de bienveillance, mais plutôt par crainte.
Oui, c'est la peur.
Et je crois que cette. Même si ça part de bonnes intentions, le fait d'isoler.
C'est ce qui a été fait en Suède, ils ont désinstitutionnalisé.
Voilà.
C'est une évolution de la société quand même.
C'est
une évolution. Souvenez-vous que dans les villages, il y avait toujours ce qu'on appelait le lieu de village.
Qui était très intégré.
Qui était tout à fait intégré, à qui tout le monde donnait un coup de main.
Oui.
Voilà. Maintenant, quand vous, bon, il y en a dans le village des Pyrénées, à côté de chez moi, à côté de là où j'ai une maison, il y en a un qui a un handicap mental visiblement, et qui me dit, mais tout le monde, les gens ne veulent pas me parler. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, mes grands-mères et mon père ont gardé la maison. Il y a ça. Non, ce n'est pas toujours possible.
Moi, j'ai ma maman à la maison de retraite parce qu'elle a un handicap.
Il y a des fois où ce n'est absolument pas possible. Mais c'est vrai que dans le temps, puis il n'y avait pas la nécessité de soins qu'il y a maintenant.
Oui, aussi.
Non, ça aussi.
Mais sans, je pense que quand même, sans en arriver à dire ces structures n'ont pas d'intérêt, parce que moi, j'ai travaillé
dans une structure. Ah non, ça a une cause.
Qui a mené, à mon avis, a mené quand même aussi des choses. Ce qu'il faudrait réfléchir, c'est pas où tout est. On fait comme si tout était normal et ils n'ont pas besoin de soins, ils sont au milieu de nous, nous on ne peut pas les voir.
Il faut sortir de ces camps de concentration,
je ne sais pas parce que je viens tout comme ça. C'est des allers-retours. Le fait, par exemple, que les enfants. Ah, il y a la maison de retraite, bon, il y a des initiatives qui sont intéressantes. Que les enfants aient chanté pour les anniversaires des papiers et des mamies. Bon, il se passe quand même dans notre société aujourd'hui des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et je crois qu'il faut aller dans ce sens, c'est-à-dire décloisonner tout ça. C'est pas qu'il faut plus que ça existe.
Oui, mais vous avez aussi quand même, en parlant des enfants, moi je me souviens. Ma mère, quand elle parlait le mongolien, c'était terrible. Et moi, j'allais dans un club de gym, je devais avoir 6 ou 7 ans, et mon prof, il s'appelait M. Giraud, ça s'appelait l'Olympe, m'a dit, tiens, j'ai pris une petite fille trisomique, qui s'appelait Claire. Tu vas lui donner la main. J'ai jamais eu une main qui a brûlé autant. Parce que, voilà, les familles, il faut voir comment on parle. Moi, je suis d'accord qu'il faut. C'est important, les handicapés mentaux lourds, c'est important qu'ils soient dans la structure.
Voilà,
c'est évident que vous pouvez pas. Moi, je connais des mamans, parce que j'ai vu leurs enfants handicapés mentaux lourds qui ont sacrifié leur vie. Je pense que ce n'est pas souhaitable. Voilà. Je pense que ce n'est pas souhaitable. Il y a ce qu'on peut assumer et ce qu'on ne peut pas assumer. Parce que les aidants, quelquefois, c'est eux qui pâtissent de tout. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut une.
Il y a une question de la dame qui est ici, puis après du monsieur qui est au premier rang.
Oui, ben, je voulais intervenir par rapport à ce que disait la dernière. Je travaille en institution, on n'est pas une personne en situation de handicap mental. Et je trouve que c'est loin d'être un endroit où on cloisonne les gens. Et je trouve, vous venez de l'expliquer après une libération. Je pense que la prise en charge autrefois dans les maisons particulières chez les gens était beaucoup plus. Était beaucoup plus d'abord sclérosante pour les personnes.
Absolument.
Et nous n'avions pas. Et les personnes, les familles n'étaient pas qualifiées pour pouvoir encadrer les personnes.
Il y a des soins, quand il faut des soins, il faut des soins.
Voilà. Moi, j'ai autour de, juste à côté de chez moi, une gamine qui était de mon âge, que j'ai toujours entendu crier et tout dans la maison, dans laquelle on n'a jamais pénétré, qu'on n'a jamais vu. Et je pense que l'institution a aujourd'hui, après les lois de 2002, 2005 et tout, est beaucoup moins sclérosante.
Il faut garder un équilibre et il faut que tout le monde soit heureux, je veux dire. Si vous avez des mamans qui s'occupent intégralement de leur enfant en grande situation de handicap mental et qui dépriment et qui prennent leur antidépresseur, ce n'est pas la bonne solution. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, je le répète, le fait de ne pas avoir la force d'aller dans une maison de retraite, par exemple, où il y en a beaucoup, c'est prendre en pleine figure sa propre fragilité, c'est comme ça qu'on va finir tous. Parce qu'on va tous avoir un âge, il ne faut pas se leurrer, hein. Donc on ne pourra plus faire ce qu'on faisait avant. Point.
Après, il y a ce que l'on imagine, mais qui n'est pas forcément la réalité.
Et c'est pour ça,
gens qui interviennent
absolument. C'est pour ça, si vous voulez, que j'accepte toujours de faire ce type de conférence, pour essayer de changer le regard et diminuer la peur.
Et qui découvre un monde qui est complètement...
Monsieur.
Une demande. Il y avait dans les années 80, oui, c'était à cette époque-là, un centre. Merci. Il y avait dans les années 80, dans les Cévennes, à Monoblet, une personne qui accueillait les autistes et qui avait pour mission, enfin qui s'était donné pour mission, c'était un ancien éducateur spécialisé. Et il s'était donné pour mission, non pas de résoudre le problème de l'autisme, mais de le faire accepter par les parents et par la société. Et je voudrais savoir, enfin vous devez le connaître, c'est Fernand de Ligny, il a écrit tout un tas de livres et qui serait très intéressant de relire et de rediffuser. J'aimerais savoir ce qu'est devenu, parce que lui il est décédé, ce qu'est devenu, si vous savez, son centre et son action. Et cette action de faire accepter les autistes par la famille et par l'entourage, il serait bon qu'elle soit faite aussi au niveau de tous les handicaps.
Oui, absolument. Il y a quand même là à Toulouse, il y a quand même une association qui s'appelle CELESA, où il y a des psychologues, des psychocomportementalistes qui œuvrent beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup d'actions pour tuer.
Mais c'est assez confidentiel.
Oui, c'est encore confidentiel, mais il y a quand même beaucoup d'actions. Où on essaye, et puis surtout ce qu'on essaye dans l'autisme actuellement, c'est de déculpabiliser les mères.
Mais là, il m'a fait beaucoup de bien.
Mais oui, je veux dire, mais c'est déculpabiliser les mères, c'est pas leur faute si leur enfant est autiste. C'est vraiment. La culpabilité, tout le temps, il faut toujours, pour qu'il y ait, c'est toujours sur la faute de quelqu'un. Et c'est terrible, la faute de quelqu'un. Pour le quelqu'un. C'est confortable pour celui qui dit c'est ta faute, mais c'est horrible pour celui qui est censé être le. Voilà. C'est à cause de toi que les choses vont mal. Non ? Alors, je ne connaissais pas ce centre, mais c'est très intéressant.
J'ai eu la chance de le rencontrer, de l'interviewer, une personne fantastique.
Vous savez, il y a beaucoup de gens fantastiques qui œuvrent, alors, entre nous, toujours, ou toujours, pas toujours, mais presque toujours. Parce qu'ils ont été dans leur famille, touchée par quelque chose. Moi, c'est une question qui revient très souvent quand je fais des conférences sur le cancer du sein et sur la solution du poste. Bon, je suppose que vous avez eu le cancer du sein. Ben non. Non. Et là, les gens sont sidérés. Ils disent, mais les journalistes, ils disent, non, on ne crée pas une association comme ça quand on n'en a pas eu. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et c'est vrai qu'un club autiste pour le rugby, ben, bien évidemment, je voudrais raconter l'histoire parce que c'est quelque chose d'important. C'est à cause de ça qu'il l'a fait. Et il m'a dit, moi j'ai fait une conférence avec lui il y a longtemps à Monaco, et il m'a dit, tu sais, moi, avant l'autisme, c'était un mot. Et puis, Baptiste est arrivé. Et là, on voit les choses différemment. Mais c'est vrai que changer son regard, et surtout avoir un regard bienveillant, ça me suffit. Juste le regard bienveillant. Le sourire.
Vous avez parlé de Marcel Ruffo tout à l'heure. C'est un homme merveilleux.
Fabuleux.
Aussi.
Fabuleux.
Je pense que quand il vient à Toulouse, vraiment, il faut aller l'entendre parce que c'est.
Il est extraordinaire.
Il donne du courage, il est plein de.
Il est dans le positif. Vous avez, fait une, vous avez fait une conférence au Comité Olympique, au Comité National Olympique et Sportif Français, où on n'était que des médecins du sport, des médecins de fédération. Et là, vous avez tous secoué en me disant. Alors, tous les médecins, quand ils ont une petite anorexie, ils la mettent devant la glace et disent « Regarde-toi, tu vas être ridicule, elle ne se voit pas. » Alors, essayez de leur faire, vous, vous êtes médecin du sport, essayez de leur faire prendre conscience de leur corps en les mettant par terre, là, pour pas que ce soit dangereux, et en leur faisant faire des mouvements de manière à ce qu'elles prennent conscience de leur corps. Parce que c'est la vision qu'elles auront là, pas là.
On va pouvoir remercier Dominique pour tout ce qu'elle nous a dit ce soir et apporté ce soir. Avant de lui dire merci, j'ai retenu dans tout ce que tu as présenté tout à l'heure quelque chose que je pense qu'on devrait tous avoir présent à l'esprit quand on se trouve en face de personnes handicapées. Il y a une toute petite phrase dans une des diapos qui dit « Ne pas avoir peur de faire des gaffes. »
Oui.
C'est-à-dire aller au-devant des handicapés sans avoir peur éventuellement de se tromper. Alors, une petite anecdote. Il m'arrive assez fréquemment de faire de l'accompagnement d'aveugles en vacances. D'ailleurs, je cherche des volontaires pour un séjour d'aveugles à Toulouse au mois de juin. On n'est pas assez nombreux pour les accompagner. Alors, s'il y a des volontaires, vous pourrez lever la main. La première fois que j'ai fait ça, j'avais avec moi deux aveugles. On est allé visiter une église avec un cloître. Et quand on est rentré dans le cloître, où il y avait des belles colonnes en marbre rose avec des chapiteaux sculptés, j'ai dit en me tournant vers celui qui était à ma droite, tu vois que là il y a. Et je me suis arrêté.
Et il dit la même chose.
En me disant dans ma tête, quelle couille, pardon, quelle andouille. Évidemment, il ne voit pas. Alors je lui ai dit, excuse-moi, il m'a dit, mais tu n'as pas besoin de t'excuser, je vais voir avec tes yeux et mes mains. Et effectivement, quand il avait passé sa main sur le chapiteau, trois chapiteaux plus loin, il y avait le même, il l'a reconnu avec ses mains. Donc, pour ne pas avoir peur de faire des gaffes, on peut en faire. Si on les fait gentiment, il nous les pardonne. Et après, ça marche. Dominique, merci. Je sais que Dominique et Emmanuel ne pourront pas rester très très longtemps parce qu'Emmanuel prend un avion très tôt le matin pour aller travailler. Il parle comme ça, un médecin qui dit « je vais travailler ». Pour aller travailler, c'est un sujet normal.